France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. Et ce matin, on s'intéresse aux expériences de mort imminente d'un point de vue scientifique. L'expérience de mort imminente, cette fine frontière entre la vie et la mort qui n'a rien à voir avec la mort cérébrale. Recherche neurologique à l'appui, comment expliquer ce phénomène qui a recueilli des milliers de témoignages qui ont vécu cet événement marquant? Que se passe-t-il exactement dans le cerveau lors de ces expériences de mort imminente? C'est l'occasion également de s'interroger sur les mystères de la conscience. Nos experts attendent vos questions et vos témoignages sur ces expériences sur WhatsApp et au standard au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rebbi.
Bonjour professeur Steven Lorès.
Bonjour.
Vous êtes un neurologue de renommée mondiale, vous êtes directeur de recherche au Fonds de la Recherche Scientifique, fondateur du Coma Science Group, chercheur à l'Université de Liège et professeur invité à l'École de médecine de l'Université Harvard aux États-Unis. Vous avez publié plus de 500 articles scientifiques et vous publiez chez Audit Jacob l'expérience de mort imminente. Bonjour docteur Gérard Dupérin.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien stomatologue, spécialiste de la reconstruction du visage et du sourire et vous avez publié chez Lazare et Capucine « Revenu de la mort ». Il s'agit d'un témoignage d'expérience de mort imminente. Et ce n'est pas un ouvrage scientifique, c'est un témoignage sur cette expérience-là. Vous allez y revenir tout au long de cette émission. Alors, professeur Steven Lorès, pouvez-vous définir exactement ce qu'est une expérience de mort imminente? Comment la science définit ce phénomène exceptionnel pour celles et ceux qui le vivent?
Alors, c'est une très bonne question, hein, parce qu'on est là dans la subjectivité. Hein. Qu'est-ce que cette personne-là, qu'on croyait inconsciente, dans le coma, après un arrêt cardiaque ou un trauma, peut partager par après? On a fait comme un top 10, quelles sont les caractéristiques qui reviennent le plus souvent. On a des échelles pour définir ce phénomène extraordinaire et pourtant bien réel. Très souvent, dans notre cohorte, on a des milliers de témoignages, c'est cette sensation de bien-être. Il n'y a pas de douleur, il n'y a parfois même pas les mots pour dire comment on s'est senti. Cette notion de lumière, souvent interprétée comme un tunnel, les décorporations, donc on va se voir, voit l'opération, la réanimation. Dans notre série, on voit moins souvent les fameux flashs de défiler sa vie. C'est un peu plus dans les films Hollywood.
Dans ici, les romans plus de science-fiction.
Mais voilà, on les a aussi trois fois sur dix. Donc, c'est un phénomène, je pense, très intéressant que peut-être, d'un point de vue médical et scientifique, on n'a pas pris assez au sérieux.
Les expériences de mort imminente sont très diverses. Elles peuvent être vécues de façon effrayante, heureuse ou à mi-chemin.
Oui, alors j'étais en Russie, à Saint-Pétersbourg, il y a déjà des années, pour parler de nos recherches, et il y avait là un prêtre orthodoxe, Father Sergei, qui travaille aux soins intensifs et qui me disait vous dites que 9 sur 10, ils vivent ça de manière très positive, moi, dans mon expérience, une fois sur deux, ils vont rencontrer le diable, ils me parlent de l'enfer. Et donc, on étudie aussi cette composante culturelle. C'est pas nécessairement pour tout le monde, tellement positif.
Votre mère a elle-même vécu une expérience de mort imminente à votre naissance, en 1968.
Oui, le 24 décembre, c'est comme ça que je commence le livre. C'est pas un jour, il n'y a pas énormément de médecins, et c'était un jeune qui n'avait pas encore fait de césarienne, et il fallait cette intervention chirurgicale où elle a perdu beaucoup de sang. Elle pensait qu'elle allait mourir, et ce n'est que des années plus tard qu'elle a partagé, après avoir compris qu'on étudiait le phénomène. Mais c'est un peu aussi grâce à ça que j'ai fait la médecine, parce qu'elle m'a toujours dit, tu es là grâce à la médecine, tu vas retourner la faveur. Et donc, j'ai toujours su que j'allais faire ce métier.
Alors, pour mesurer une expérience de mort imminente, les scientifiques s'appuient sur l'échelle du psychiatre américain Bruce Grayson, qui repose sur 16 questions. Et votre équipe de recherche de l'Université de Liège propose une échelle encore plus nuancée, encore plus précise.
Mais justement, donc, un travail très important hein, de Bruce Grayson, avec qui on a publié, qui a permis de définir, comme vous le dites, et en même temps, on trouvait qu'il y avait un certain biais, que les personnes qui ont vécu quelque chose de mixte ou de négatif étaient un peu exclues. Et donc, on a ajouté, oui, des critères. Et puis maintenant aussi, on peut utiliser l'intelligence artificielle, parce que les questionnaires, ben, c'est important, ça va standardiser, mais il y a aussi beaucoup qui va nous échapper. Donc, si je peux me permettre, Ali, un petit appel à témoins, ceux qui nous écoutent et qui l'ont vécu, et qui connaissent quelqu'un, partagez cette expérience. Hein. Donc, le courriel, parce que maintenant je suis aussi à l'université Laval à Québec, c'est nde@ulaval.ca. Comme ça, votre témoignage, ben, vous allez participer à cette recherche nde@ulaval.ca, où vous partagez tout simplement votre vécu et on va l'analyser de manière automatisée, standardisée maintenant avec AI.
Alors, dans la culture populaire, l'expérience de mort imminente, c'est la fameuse lumière blanche au bout du tunnel. Quelle est la réalité scientifique? On va y revenir tout au long de cette émission.
La réalité scientifique, je pense, c'est très important d'écouter la personne qui l'a vécu. Je pense qu'on est là dans une forme d'émotion pure, où déjà le cerveau qui, lui, essaye de donner un sens. Hein. En ce moment, on parle, il y a des personnes qui nous écoutent, on va faire des interprétations, on apprend de ce qui nous est arrivé avant, on va anticiper le futur, et là, il se passe quelque chose qui est presque pas comparable à tout ce qu'on a vécu avant, et ces structures-là, très profondes dans le cerveau, vont avoir besoin de ce réseau du langage, hein, pour déjà s'expliquer à lui-même qu'est-ce qui m'est passé, et puis après le partager. Oui, c'est une réalité universelle, on le voit dans le livre, je parle des autres continents et de tous les temps. Il y a, il nous semble, des différences. Par exemple, cette lumière en Inde, on va plus souvent parler d'une rivière dans le monde musulman, une porte. Donc là, on n'a pas l'anecdotique en science, on a des études en cours pour mieux le documenter.
Pourquoi l'expérience de mort imminente est-elle un sujet controversé? Comment expliquer le scepticisme de certains scientifiques dans votre livre, hein, vous précisez que vous êtes athée, mais épris de spiritualité. Sur la controverse et le scepticisme autour de l'expérience de mort imminente.
Alors, je pense que c'est jamais bon quand un scientifique va s'auto-censurer. Quand moi j'ai commencé à faire les recherches sur le coma dans les années 90, c'était tabou. Étudier notre phénoménologie personnelle, subjective, c'était considéré comme trop compliqué et c'est très dommage. Et évidemment, là, on parle hein, de l'expérience subjective pure, et on ne l'a pas pris assez au sérieux. Beaucoup des personnes qui le partagent avec moi disent « Docteur, vous êtes le premier à qui je le dis ». Pour certains, on a tout compris, c'est une hallucination produite par des substances chimiques ou un manque d'oxygène. On a démontré que ce n'est pas si simple que cela. On a même parlé de faux souvenirs. On a aussi fait des études pour dire on a des échelles pour identifier c'est quoi un souvenir vrai. Et donc, on est là dans quelque chose de très intense, une réalité physiologique. Après, c'est la question aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il peut y avoir une pensée, une perception, une émotion complètement indépendante de l'activité cérébrale ou pas?
Professeur Stephen Lawrence, vous prévenez dans votre livre contre toutes celles et tous ceux qui présentent les expériences de mort imminente comme une preuve irréfutable de l'existence de l'âme ou de l'existence d'une vie après la mort, sans compter tous ces auteurs que vous critiquez dans votre livre qui promettent le paradis céleste après avoir vécu une expérience de mort imminente.
Je pense que c'est important de faire la différence entre moi, comme scientifique, et là, la barre, elle est très haute quand on parle de preuves, ou comme soignant, hein, parce que des personnes qui l'ont vécu pas nécessairement bien, il faut les écouter, il y a vraiment, je pense, des choses à faire. Mais c'est clairement pas mon rôle de dire, ben non, non, vous vous trompez. On a travaillé avec des moines bouddhistes, on travaille maintenant en Amérique du Nord avec ces communautés autochtones. Pour eux, l'expérience de mort imminente, c'est une porte vers leurs ancêtres. Je suis pas du tout celui qui va dire, ben non, c'est l'activation du cortex temporoparietal droit, vous vous trompez. Donc là, c'est la différence entre la connaissance, et comme chercheur, ma mission, c'est de repousser les frontières de notre connaissance. Et puis, il y a vraiment la subjectivité, l'expérience, et ça, c'est à chacun de donner un sens à la vie et à une éventuelle vie après la vie.
Face aux expériences de mort imminente, vous ressentez une forme d'émerveillement, vous luttez contre une forme de réductionnisme. D'ailleurs, vous faites votre cette citation du célèbre cosmologiste Carl Sagan, « La science n'est pas seulement compatible avec la spiritualité, elle est une source profonde de spiritualité ».
Je le crois de plus en plus. Et en effet, il y a eu une évolution moi, je suis un flamand, grandi dans une famille catholique. J'ai prié, puis j'étais à une université athée à Bruxelles.
L'université libre.
Scientia vincere tenebra, c'est-à-dire la science va répondre à toutes nos questions. Et je pense que je suis devenu un peu moins arrogant et plus émerveillé devant ce grand mystère qui est l'origine de la matière, de la vie, de la conscience, qu'on étudie avec nos différentes équipes maintenant depuis plus de 30 ans. Et je pense qu'on est loin de pouvoir dire on a tout compris.
Docteur Gérard Dupéra, je rappelle que vous êtes chirurgien maxillofacial. Alors au tout début de votre livre, vous écrivez « Né à l'automne 1956 en Auvergne, je suis mort le 20 janvier 2020 à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. » Alors ce jour-là, vous êtes à votre cabinet médical, vous vous effondrez après une dissection de l'aorte, l'une des causes de mort subite avec l'infarctus du myocarde. Les médecins informent vos proches que vous êtes perdu et leur demandent si vous vous opposez au prélèvement d'organes. Que se passe-t-il après ?
Alors après, dans un tout premier temps, quand je me suis réveillé, je suis sorti du coma, je me suis rendu compte que j'avais plus rien qui fonctionnait vraiment en termes de gestuelle. Donc les premiers mois ont été exclusivement concentrés à pouvoir me tenir debout, à pouvoir boire un verre bêtement. Enfin, tous ces actes de la vie quotidienne.
Mais qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez au bloc opératoire ? Parce que là, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Oui. Qu'est-ce qui se passe précisément ?
Alors, en fait, j'étais dans le coma. Après, ce qui s'est produit, c'est que, pareil, j'ai ressenti cette aspiration. Alors, on parle d'un tunnel, on peut parler de n'importe quoi, c'est que de la sémantique, c'est que des mots, mais une aspiration. Ensuite, je me suis retrouvé dans une blancheur immaculée, mais j'ai même pas d'adjectif pour la qualifier. Et il y a eu deux choses qui m'ont sur le coup un peu bouleversé, je dirais, c'est cette impression de sérénité absolue, comme je n'ai jamais eu. Pourtant, j'ai énormément pratiqué les arts martiaux, les sports de combat, mais je n'ai jamais obtenu cette sérénité, que ce soit par la méditation ou par d'autres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le fait de rencontrer des visages de défunts, qui m'accueillait avec beaucoup de bienveillance. Et à partir du moment où j'ai commencé à me rappeler de tout ça et à le revivre, surtout que le fait de croiser des visages de défunts, ça s'est poursuivi pendant très longtemps et ça continue encore aujourd'hui. C'est vrai que j'ai cherché une explication, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, Ali, à la base, je suis chirurgien maxillofacial, donc hyper cartésien, il y a le noir, il y a le blanc, 1 plus 1, ça fait 2, Donc, il me fallait une explication. Oui, pardon.
Professeur Stéphane Lorès, deux choses dans ce que nous dit le docteur Dupeyra. Il y a d'abord l'expérience de bien-être qui revient très fortement dans toutes les recherches scientifiques autour des expériences de mort imminente. Et puis, la part subjective de ce que nous raconte le docteur Dupeyra, de cette rencontre avec des défunts. Deux choses différentes. Tout d'abord, sur cette expérience de bien-être absolu que le docteur Dupeyra n'a jamais connu jusque-là.
Oui, donc, et où on n'a même pas les mots hein, pour le partager.
Ça,
donc, aussi, dans notre appel à témoins, on propose maintenant de l'exprimer de manière visuelle, de dessiner. On a aussi des enfants. Donc, c'est évidemment très, très difficile, parce que justement, comme scientifique, on va faire des mesures dites objectives, hein, on va faire des scanners, l'IRM fonctionnel, l'électroencéphalographie, et en même temps, tout cela reste sans valeur, quelque part, si on ne va pas s'intéresser à la phénoménologie, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et donc, oui, cette sensation de bien-être qu'on a aussi essayé d'expliquer d'un point de vue évolutionnaire. Pourquoi est-ce que ça peut-être nous protéger en cas de ces grands dangers?
Petite précision tout de même à ce stade de l'émission, la différence à établir entre l'expérience de mort imminente et la mort cérébrale.
C'est
et comme vous
important.
Le dites très bien dans votre livre, la mort cérébrale, on n'en revient pas. Donc c'est deux choses très différentes qu'il faut peut-être préciser.
Oui, et quelque part, on a une preuve scientifique de vie après la mort, c'est le don d'organes. Donc là, j'invite tout le monde qui nous écoute, réfléchissez. Quand vous êtes décédé, vous pouvez sauver jusqu'à cette vie. Alors, la mort, c'est quoi? En médecine, nos diagnostics sont probabilistes. Hein, on peut se tromper. Il y a quand même un qu'on a intérêt à ne pas rater, c'est quand on me demande de remplir le papier de décès. Donc, on a des critères qu'on connaît. C'est l'arrêt irréversible, battement de cœur, de la respiration, et puis le troisième fonction vitale, c'est l'activité cérébrale. Et puis, il y a eu dans les années 50 une révolution, l'invention d'une machine qui s'appelle le respirateur artificiel, qui a obligé la médecine à redéfinir la mort avec des critères neurologiques. Et ça, c'est la mort cérébrale, où, c'est très important à souligner, jusqu'à présent, on n'a aucun patient qui vraiment avait les critères de mort cérébrale qui est revenu. Donc, la mort cérébrale, c'est la mort. L'expérience de mort imminente, on était dans un état critique, certes, et on a étudié que tous ceux qui survivent les soins intensifs au CHU de Liège, 15%, hein, ont des souvenirs, ont eu ce qu'on pourrait appeler expérience de mort imminente, mais ils n'étaient pas morts.
Dans un instant, nous écouterons le témoignage d'Olivia. N'hésitez pas, comme elle, à nous appeler au 01 45 24 7000. On se retrouve juste après avoir écouté The Verve, qui interprète Bitter Sweet Symphony, une chanson sortie en 1997, 10h23 sur Inter. It's a bittersweet symphony. The Verve interprété Bittersweet Symphony.
France Inter.
Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Oh non! C'est l'inverse! Il y a une mort après la vie, tu as tout mélangé. Et voilà, hein?
Grand bien vous fasse.
Quand est-ce qu'on meurt? Ah bah ça peut arriver comme ça, à tout instant. Bien sûr, tu peux mourir d'un... Non, je déconne.
Ali Rebbi.
Et ce matin, dans Grand Bien vous fasse, on s'intéresse aux expériences de mort imminente d'un point de vue scientifique avec le neurologue Stephen Lawrence et avec le docteur Gérard Dupéra qui a connu une telle expérience. Professeur Lawrence, comment identifier une expérience de mort imminente de façon la plus rationnelle possible? Qu'est-ce qui la distingue d'autres états de conscience comme l'hypnose, la transe ou les rêves?
Très bonne question. On l'a étudié, donc on a des milliers de ces témoignages, de personnes qui ont survécu un coma. Et puis, on peut les comparer justement avec les rêves, avec souvenirs parfois très proches de ces personnes qui nous ont contactés, mais qui l'ont vécu pendant le sommeil, la méditation, même l'orgasme. Et on a aussi une publication où on le compare avec les psychédéliques. Donc ça aussi est extraordinaire, ces sensations de bien-être. On est dans un autre univers, on a ce sentiment d'être un avec... Et ça nous permet de tester certaines pistes. C'est des hypothèses au niveau neurochimique. On a identifié que, par exemple, la kétamine, la psilocybine, et on sait sur quels neurotransmetteurs ils vont agir, c'est très très proche.
Quand la psilocybine, c'est un champignon ?
C'est un champignon magique que j'ai moi-même d'ailleurs pris, et je le partage dans le livre, mais dans une IRM.
Pour voir ce qui se passe.
Voilà, et donc je suis devenu un avec le bruit de la machine, avec cette croix qu'il fallait fixer. Puis j'ai un peu du mal avec le lâcher prise, et il y a l'infirmière qui est venue tenir ma main, et puis j'avais plus de main, plus d'ego. Ça a pris un peu de temps, hein, parce qu'on a pas mal d'ego comme médecin. Et donc c'était très très intéressant de vivre ce phénomène, et puis par après, j'ai pu voir qu'est-ce qui a changé dans mon activité cérébrale qu'on a mesurée à ce moment-là.
Et nous accueillons Olivia. Bonjour Olivia, bienvenue.
Bonjour, je suis très émue de vous avoir, de participer en tout cas ou de témoigner dans votre émission que j'adore.
Merci beaucoup. D'où appelez-vous Olivia?
J'appelle de Paris, mais j'habite la moitié du temps à Lisieux.
D'accord. Alors qu'avez-vous vécu?
Alors j'ai été piquée par un bourdon et j'ai fait un choc anaphylactique, c'était le premier que je faisais. On m'a tout de suite amené à l'hôpital de Lisieux où ils m'ont réanimé pendant 7 heures. Mmh. Et c'est là où j'ai eu cette expérience de mort imminente. En fait, j'étais allongée, j'avais plus de corps, très loin, j'étais comme sur une plage et il y avait une grande lumière au bout et j'étais tellement bien. Mmh. Donc je rejoins exactement le témoignage. J'ai jamais été aussi bien de ma vie, je crois. Mmh. C'était merveilleux. Mais il y avait une infirmière, je me disais, qu'est-ce qu'elle m'embête celle-là, qui me disait, Olivia, restez avec nous. Alors j'avais envie d'aller vers cette lumière. Voilà, heureusement ils m'ont réanimée. J'ai fait après d'autres chocs anaphylactiques, et j'ai regretté de ne pas avoir été de nouveau en mort imminente, et que ça soit jamais revenu. À l'époque, j'ai 69 ans, à l'époque je suivais une analyse, donc j'en ai parlé avec ma psy, qui ne comprenait absolument pas mon aspect, enfin j'étais un peu désorientée. Et en fait, personne ne pouvait comprendre, il n'y a que des gens qui ont vécu cette chose-là. Je précise également que je ne suis pas croyante, je ne suis pas devenue croyante, que j'avais, compte tenu de mon âge, eu des expériences moi aussi avec des champignons hallucinogènes ou avec d'autres substances à l'époque, qui étaient d'autres expériences. Cette expérience-là est restée unique.
Unique. C'est très intéressant ce que nous dit Olivia, professeur Lawrence.
Oui, grand merci pour ce partage. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à le partager avec l'équipe, donc nde@ulaval.ca, parce qu'on a besoin encore plus de ces témoignages. Ça peut se passer dans différentes situations. Il y a beaucoup de facteurs confondants. Donc, grand merci.
Votre réaction, docteur Dupéra, à ce témoignage qui ressemble un peu au vôtre dans ce que vous avez ressenti comme bien-être ?
Complètement, et c'est vrai que lorsque Olivia nous dit qu'elle aurait envie de revivre une même expérience, Personnellement, je n'irai pas jusque-là parce que mon souvenir de dissection de l'aorte, il est quand même très négatif.
Une fois, c'est bon.
Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que la sérénité de la NDE, de l'EMI, elle est tellement magique. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'adjectif pour que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
NDE, c'est l'acronyme anglais de...
Near Death Experience.
Expérience de mort imminente.
On a aussi le Fear Death Experience. C'est des personnes qui ont peur de mourir. Dans le livre, je parle de ces alpinistes qui vont tomber. Là, il n'y a pas de trauma crânien, il n'y a pas de manque d'oxygène. Mais pendant ce bref moment, ils vont être sauvés par la corde. Ils peuvent aussi vivre le phénomène.
Merci beaucoup, Olivia, d'avoir témoigné ce matin. Alors, je le rappelle encore une fois, à 10h30 dans cette émission, être presque mort, aux frontières de la vie et de la mort, ne veut pas dire être mort. La mort cérébrale est un état irréversible. Alors, comment se déroule une expérience de mort imminente? Quels sont les ingrédients typiques d'une telle expérience?
Alors, on a étudié ces différentes caractéristiques et s'il y a une sorte de séquence. Hein, c'est compliqué parce que justement, il n'y a plus cette notion de temps. Hein, un peu comme le rêve. Je pense que c'est plus facile à communiquer sur un sujet qu'on a tous vécu. Et ici, ben, on est quand même dans quelque chose de moins fréquent. On voit donc cette émotion, très souvent un bien-être, puis la lumière, la décorporation. Il y a des caractéristiques assez typiques, ce qui nous permet de le définir, mais quelque part, chaque histoire est aussi unique. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour la personne qui l'a vécu et l'impact que ça a sur le reste de sa vie.
Docteur Gérard Dupeyrat, vous avez donc vécu une expérience de mort imminente après une dissection de l'aorte qui provoque le plus souvent une mort subite. Le 20 janvier 2020, vous êtes transporté à l'hôpital Georges Pompidou en état d'urgence absolue. Vous perdez connaissance donc après cette dissection de l'aorte. Les médecins informent vos proches que vous êtes perdu. Vous passez 8 heures au bloc opératoire où des chirurgiens cardiaques, des anesthésistes, des cardiologues, des infirmières, des radiologues tentent de vous sauver. Et vous racontez donc que vous flottez au-dessus de cet ensemble bleuté, puissamment éclairé. Vous êtes au-dessus et tout vous semble réel, avec cette sensation que vous avez évoquée tout à l'heure d'être aspiré dans un tunnel. Et deux questions vous assaillent. Est-ce que l'intervention chirurgicale a mal tourné? Et est-ce que vous êtes mort? Ces deux questions
absolument
que vous posez alors que vous flottez au-dessus de ce corps. Vous allez nous expliquer après, professeur Laurès, pourquoi on a cette sensation de décorporation qui pourrait peut-être faire passer ces expériences de mort imminente pour des phénomènes paranormaux.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai mis pas mal de temps à accepter de témoigner, parce que j'avais très franchement peur qu'on me prenne pour un fou. Et moi, c'était l'attitude que j'avais à l'égard, quand j'exerçais la chirurgie maxillofaciale pour des traumas de la route, quand on revoyait les patients en post-opératoire pour regarder les radios, pour voir, et qu'ils nous expliquaient qu'ils avaient vécu, ça m'est arrivé 2-3 fois, très rarement, hein, qu'ils avaient vécu ce genre de choses, je ne les croyais absolument pas. Pour moi, c'était un trauma post-op, point final, et je me disais, les mecs, ils vont se calmer quand tout sera rentré dans l'ordre. Ouais. Donc, quand ça vous arrive, la première réaction, c'est de se dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de disjoncter? Il faut absolument que j'essaie de trouver une raison, comme tu disais, Steven, une raison purement scientifique. Et là, je serais soulagé en me disant, je ne suis pas fou.
Et vous
vous
demandez donc si l'intervention chirurgicale a mal tourné ou si vous êtes mort?
Absolument. Absolument, oui, c'est clair. C'est...
Mais qu'est-ce que vous ressentez? C'est quoi ce phénomène de décorporation? Il y a d'ailleurs des schémas dans votre livre, professeur Laurès. Qu'est-ce qui se passe exactement pour que le docteur Dupeyrat, parce que moi qui n'ai jamais vécu évidemment ce genre de choses, je suis un peu comme vous il y a quelques années,
oui,
en me disant, bon, je suis un peu dubitatif sur cette idée que l'on puisse se voir au-dessus, qu'on puisse assister à la scène. Qu'est-ce qui se passe exactement d'un point de vue neurologique? Je rappelle que vous êtes neurologue, professeur Laurès.
Ce qu'on a vu avec ces études de neuroimagerie, c'est que il y a une partie ici, à droite, au milieu du cerveau, cortex temporo-pariétal, où quand on va le stimuler, il y a plusieurs articles, on peut provoquer cette sensation de se voir. Ça peut aussi se passer dans d'autres situations. Je l'ai moi-même vécu dans une situation de stress quand j'ai dû faire ma première présentation à un congrès scientifique. À un moment, je m'entendais parler et puis je me suis vu donner la conférence.
Donc il y a une explication neurologique.
Alors, en tout cas, on sait qu'il y a un correlat neuronal qu'on peut, chez des sujets sains, le stimuler de manière invasive ou non-invasive avec un aimant, par exemple, qui permet de faire une excitation de la matière grise ici, qui peut provoquer...
Vous dites ici, décrivez...
Du côté droit, au milieu, là,
de la
peut
tête.
Provoquer une décorporation, en anglais, un out-of-body experience. On voit la même zone, mais de l'autre côté, qui s'allume dans nos études quand on a ce sentiment qu'il y a, une présence, parfois. Donc, une série de pistes aussi pour la lumière. Je le vois chez des personnes qui ont fait un AVC ou certaines formes de migraine. Et dans les livres, je partage aussi, j'ai essayé de revivre ces différentes caractéristiques. J'étais en Varsovie dans la centrifuge qui va être utilisée pour les astronautes et les fighter pilots. Donc, on va vous tourner comme une salade où à un moment, il n'y a plus de sang qui va vers la tête, et alors votre vision, elle devient vraiment très très circulaire jusqu'à un point. Donc, il y a différentes caractéristiques qu'on peut quelque part réduire à différents réseaux. Cela ne veut pas dire qu'il y a une théorie qui explique le phénomène, mais en tout cas, ça mérite notre attention, parce que c'est pour moi une fenêtre extraordinaire vers ce grand mystère qui est notre conscience humaine.
Donc, vous ressentez, docteur Dupeyra, au moment de cette expérience, donc du bien-être, de l'apaisement, de la joie, jamais de peur ?
Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et une impression de... C'est vraiment l'impression d'une quiétude absolue, d'une sérénité extraordinaire. C'est pas une joie, entre guillemets, je dirais un peu hystérique. Non, c'est un état de bien-être comme j'ai jamais connu de ma vie, malgré tous les moments positifs que j'ai pu connaître.
Alors, c'est un sentiment de paix, de plaisir, de bien-être qui est ressenti par 90% des personnes qui vivent cette expérience de mort imminente. C'est une étude que vous avez publiée en 2014, professeur Lorès. Ensuite, il y a cette expérience extracorporelle pour 80% des personnes interrogées, la vision d'une lumière intense, et puis également la perception altérée du temps pour 60% des personnes interrogées.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un état modifié de conscience unique qui est vécu comme extrêmement intense, où le grand défi, c'est de mieux le documenter, le comprendre. Je pense que c'est assez polarisé, un peu trop simplifié, j'y crois pas, c'est une hallucination, il l'a compris, ou justement, c'est la preuve de l'âme qui quitte le corps. Et je pense que c'est très intéressant, on l'a entendu avec Olivia, Gérard aussi, on a sous-estimé un cerveau en souffrance, il peut avoir encore une certaine activité, une certaine capacité à avoir des pensées, des perceptions, des émotions. Elle a entendu des choses comme... et ça revient souvent. Il y a aussi une étude qui a caché des objets pour tester l'hypothèse, est-ce que cette décorporation, c'est vraiment complètement indépendant de l'activité cérébrale. À des endroits où il y a souvent des arrêts cardiaques, réanimation, on a donc des études contrôlées multicentriques qui vont cacher des objets proches du plafond, uniquement visibles quand on se retrouve là-haut. Et puis, on a posé la question pour ceux qui l'ont survécu et qui ont vécu une expérience de mort imminente. Est-ce que vous êtes capable de me dire qu'est-ce qui était là-haut jusqu'à présent? Il n'y a aucun témoignage qui était vérifiable. Mais je trouve l'expérience est vraiment très utile, parce que si c'est confirmé, mais là, c'est un prix Nobel ou plusieurs, parce que ça va à l'encontre de... Mais c'est important en science de garder un esprit ouvert, mais évidemment avec cette méthodologie scientifique. Et c'est pour ça qu'avec les équipes, on continue ce chemin-là.
On sait pourquoi une minorité de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente ressentent des émotions désagréables ou anxiogène ?
Alors, on l'a étudié. Il nous semble que c'est plus fréquent en cas de suicide. Ça, c'est une chose. On a aussi regardé s'il n'y a pas un corrélat neuroanatomique. On a des personnes qui ont des lésions au niveau du tronc cérébral, c'est-à-dire cette structure qui va connecter mon cerveau avec ma moelle épinière. On a des cas très rares d'AVC ou de lésions à cet endroit-là, qui d'ailleurs très souvent nous laissent conscients mais paralysés. C'est le locked-in syndrome, le syndrome d'enfermement. Il y a un super livre, Jean-Dominique Bauby, Le scaphandre et le papillon, qui
très
est aussi
beau
un
livre.
Film. Donc il se trouve que dans ces situations-là, on a aussi plus souvent des expériences négatives. Je commence le livre avec l'histoire de ma maman. Elle aussi, c'était vraiment pas agréable. Mais je pense que c'est très difficile de vraiment prédire. On l'a étudié aussi au laboratoire. On peut faire tomber... on a un modèle de syncope, donc on va dans des situations contrôlées réduire l'apport sanguin cérébral, et donc on tombe dans les pommes. Mais là, on a fait 256 électrodes sur la tête, et on pouvait prédire, basé sur la mesure de l'activité électrique lors de ce moment d'inconscience, qui allait par après avoir cette expérience et l'intensité de l'expérience de mort imminente.
Jules nous écrit ceci: le ressenti durant une expérience de mort imminente dépend-il de notre construction sociale et des mœurs de notre société, ou est-ce plutôt en fonction de l'état de santé de la personne? C'est très intéressant ce que nous...
Une question très
Jules.
Intéressante. Évidemment, il faut s'en souvenir. Donc, on voit, il y a les enfants, ça c'est très intéressant. On a tendance à en voir moins après un certain âge, parce que peut-être que le phénomène est plus fréquent, mais qu'on l'oublie. Il y a une différence entre conscience et mémoire. On a donc ces différences géographiques que je mentionnais déjà, avec la Russie, où ça semble être plus négatif. On peut se poser la question pourquoi, leur passé communiste, suppression de l'Église, etc. Donc c'est clair que dans notre cohorte, surtout en Europe, en Amérique du Nord, et je raconte l'histoire de cette femme qui rencontre Elvis, c'est vrai qu'on va plus souvent entendre ici une rencontre avec des anges, Jésus, la Vierge Marie, que nos études en Inde, où ça va être leur tradition. Mais c'est pour moi vraiment une réalité neurobiologique universelle et de tous les temps. Je partage Montaigne, qui aussi a vécu quelque chose de similaire. Donc, à nous de mieux l'étudier, parce que c'est pas une bonne idée qu'on garde ça tabou.
Avec une question mystérieuse, c'est la question de la conscience.
Ça, c'est le grand mystère pour la science. Et je pense qu'il faut garder un esprit ouvert. Donc, en neurosciences cognitives, c'est considéré comme une fonction émergente de cette activité dynamique, cette connectivité entre ces différents réseaux. On a identifié un réseau de la conscience du monde extérieur, ce que vous entendez maintenant, tout ce qui passe par nos sens, et ce qui est à l'extérieur du cerveau. Deuxième composante, c'est cette petite voix dans ma tête, ce qui me permet de anticiper ce qui va se passer, d'apprendre de mon passé, mais aussi de ruminer. C'est ce qu'on appelle l'activité cérébrale par défaut, ce qui est ici à l'intérieur de ce cerveau. Puis il y a le réseau émotionnel. Mais est-ce que peut-être la conscience ne peut pas être une propriété fondamentale, peut-être même universelle, de la nature? On a proposé une théorie avec Giulio Tononi dans un livre scientifique, The Neurology of Consciousness, qui va justement proposer des mathématiques que cette information doit être intégrée dans un substrat matériel. Ça permet aussi de poser des questions sur la conscience chez l'animal, chez AI, les superordinateurs. Donc on avance dans un domaine qui a souffert justement de cette autocensure, mais il y a encore pas mal de travail à faire.
Quoi qu'il en soit, dans ces moments proches de la mort, les individus découvrent ou redécouvrent des vérités assez profondes sur la vie. C'est votre cas, docteur Gérard Duperrin.
Ah ben moi, c'est extrêmement simple. C'est que avant d'avoir vécu cette expérience complètement hallucinante, j'étais quelqu'un qui vivait à 400 à l'heure. entre mon boulot qui me passionnait, qui me passionne toujours d'ailleurs, les arts martiaux, les sports de combat, et puis j'aimais beaucoup faire la fête aussi. Et donc, je vivais bourré d'adrénaline, naturelle, mais bourré d'adrénaline quand même. Et cette vie s'est complètement arrêtée avec cette dissection de l'aorte ascendante. Et là, c'est vrai que entre mon obligation de vivre différemment sur un plan purement physiologique pour éviter une récidive, malgré les prothèses qui m'ont été posées, la vision de la vie en général, en ce qui me concerne, c'est monstrueusement modifié. C'est vrai que je vois énormément de choses avec beaucoup de recul, et ce qui s'est considérablement modifié, c'est ma hiérarchie de valeurs.
D'ailleurs, vous qui avez vécu une vie dorée sur tranche à travers le monde, vous qui avez vécu des choses absolument extraordinaires à travers le monde, vous avez joui du monde, et vous échangeriez tout ça contre une gorgée d'eau, et je vous cite, le velouté frais d'un yaourt.
Absolument, parce que je n'avais... mais plus rien, et quand on en prend conscience, c'est-à-dire que je mettais 20 minutes, quand j'ai commencé à aller mieux, je mettais 20 minutes, je ne pouvais pas me lever de mon lit, je mettais 20 minutes pour aller chercher un verre d'eau qui était à 20 cm, et je n'arrivais pas à le prendre, parce qu'en fait j'avais une désorientation spatiale totale, et... Ma main devait être située à peu près à, je dis n'importe quoi, à peut-être 15-20 cm de ce verre d'eau. Donc c'est vrai que j'aurais échangé, mais toute ma vie d'avant pour arriver à saisir ce verre et pouvoir goûter, parce que j'étais sous perfusion, j'avais des tuyaux qui sortaient de partout.
Alors vous l'avez dit, vous vivez une remise en question totale de tout votre système de valeurs, tout va changer, votre rapport à la nature, au vivant, à l'existence, à la société, au travail, à la nourriture et aux défunts. Et depuis cette expérience de mort imminente, vous comprenez ce que signifie être venu au monde.
Absolument. Absolument. Et je suis pas tombé dans l'ésotérisme ou dans toutes ces choses-là, parce que sans ça j'aurais arrêté mon métier. Mais c'est vrai que j'ai fini par comprendre que le fait, en reprenant un petit peu ce que disait Lao Tzu, mais le fait d'être, vraiment la notion être, et peut-être la chose la plus capitale dans nos vies.
Professeur Loret, sur ces changements de valeurs que l'on vit après une expérience de mort imminente.
Oui, mais merci pour ce partage. Hein. On parle de la mort, mais c'est une invitation à célébrer la vie, qui est un cadeau qu'on n'apprécie pas nécessairement. Alors c'est vrai que moi je vois beaucoup de personnes qui ont des situations terrible, trauma crânien, arrêt cardiaque ou cancer de cerveau, mais ça change aussi. Mais cette expérience-ci est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque part dommage. Hein. Pourquoi on ne peut pas, chacun de nous, l'apprécier à nous de le vivre plus en pleine conscience.
Allez, on continue à s'intéresser à ces expériences de mort imminente. Ce sera juste après avoir écouté Yael Naïm, La fille pas cool, 10h49 sur Inter.
Je suis pas la fille qui ose. Je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions, pas comme ça un peu folle, pas du tout une idole. Pas une brise de cœur, j'avais trop souvent peur. Pas une grande sportive, pas vraiment combative. Voilà tout ce que je ne suis pas. Alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu cool.
Naïm interprétait la fille pas cool.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand Mal vous fasse, on s'intéresse aux expériences de mort imminente d'un point de vue scientifique, en compagnie du professeur Steven Lores, neurologue, qui publie un ouvrage sur le sujet, et avec le docteur Gérard Dupéra, qui a connu cette expérience. Et nous accueillons Lucie. Bonjour Lucie, bienvenue.
Bonjour, merci de vous intéresser à ma question.
Bienvenue. Quelle est votre question, justement ?
Alors, j'ai accompagné ma mère sur la fin de sa vie, et elle était parfois dans un état de confusion mentale, et elle témoignait de la présence qu'elle ressentait ou qu'elle voyait de personnes. Alors, ça pouvait être des personnes qu'elle avait connues et qui étaient défuntes, des personnes qu'elle ne connaissait pas. Et plus elle avançait vers la fin de sa vie, et plus ces présences-là étaient fréquentes. Mmh. Elle n'éprouvait pas de peur, pas de curiosité, elle constatait juste leur présence. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ça peut s'apparenter à un cheminement vers un fonctionnement similaire, vers cette mort imminente, enfin vers ce dont vous avez témoigné.
Docteur Steven Lores.
Oui, merci pour ce partage. On le connaît en soins intensifs et ces personnes qui vont vivre cette dernière phase et qui peuvent partager... ce que vous venez de décrire. Donc oui, je pense qu'il y a là des similitudes et on va appliquer des critères assez stricts, mais quelque part, voilà, c'est pas si noir-blanc que ça. Donc oui, ce qu'a vécu votre grand-maman était très probablement... proche de ses amis.
Merci beaucoup, Lucie, de nous avoir appelé. Ce qui est difficile, professeur Lores, avec l'expérience de mort imminente, c'est qu'elle est assez difficile à décrire avec des mots. Vous écrivez dans votre livre que toute tentative de la verbaliser en altère nécessairement une partie.
Oui, c'est ce qu'on a vu aussi avec nos expériences où on a essayé de le répliquer au labo. On voit ces réseaux qui montrent une activité anormale. Et puis, ce n'est qu'après un certain temps que l'hémisphère gauche, où il y a le réseau du langage, va essayer quelque part de donner une explication, déjà à soi-même, et puis de pouvoir le partager avec l'autre. Mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses aussi. J'ai fait le livre sur la méditation. Là aussi, j'étais quand même
scientifique.
Embêté quand il y a ces moines bouddhistes et Mathieu Ricard, le traducteur du Dalai Lama, qui là, dans ses états à nouveau modifiés de conscience et qui essaye de partager ce qu'il a vécu avec nous, l'équipe scientifique, c'était pas évident. C'est la même chose pour l'hypnose que vous avez mentionné, qui est aussi une réalité qu'on a parfois pris pour c'est un peu ésotérique ou je n'y crois pas. On peut l'utiliser même en clinique. Donc, oui, on est là confronté à ce grand défi de construire un pont entre la phénoménologie subjective, et maintenant on a des outils, et puis nos machines qui vont faire des mesures dites objectives. Donc, je pense que le défi, il est là. Certains disent, on ne va jamais y arriver, la conscience, elle est trop compliquée pour notre cerveau limité, mais mon philosophe préféré, Ali, si je peux, c'est James Bond, never say never, donc peut-être naïvement.
Ne jamais dire jamais.
Voilà, donc on continue parce que c'est aussi important. L'identification de ces réseaux de la conscience, on a quand même publié que, historiquement, on l'a sous-estimé. Ces personnes dites comme dans un légume, l'état végétatif, c'est un terme horrible, ben on a démontré que certains de ces personnes peuvent encore entendre, voir, et c'est vrai pour aussi d'autres situations, les nouveau-nés, les personnes en fin de vie, en démence, les animaux. Donc quand on peut pas communiquer, cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est complètement inconscient.
Et d'ailleurs, pendant cette expérience de mort imminente, Gérard Dupéra, vous êtes faible, très abîmé, pour enclencher, écrivez-vous, une activité cérébrale, c'est-à-dire réfléchir, mémoriser, analyser. Vous dites, je suis juste bon à ressentir.
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça, c'est avec une perception accrue de tout ce qui m'entoure. Et en ayant comme espoir le fait de pouvoir un jour, ce qui s'est produit grâce à une puissance surnaturelle, pouvoir revivre normalement, parce que on n'a pas conscience de la vie, c'est ça qui est complètement dingue. Et ce que vous disiez tout à l'heure, tous les deux, en dehors du micro, ce qui est complètement dément, c'est qu'on soit obligé d'attendre d'être quasiment mort ou d'avoir ce genre d'expérience. Ok, c'est fabuleux, c'est tout ce qu'on veut, mais obligé d'en arriver à cette extrémité, parce que c'est vraiment une extrémité, pour se rendre compte des vraies valeurs de la vie.
Tiens, qu'est-ce que vous répondez à ces neuroscientifiques qui suggèrent que l'expérience de mort imminente serait un souvenir faux ?
Alors ça, on l'a étudié, on a des échelles en psychologie pour caractériser un souvenir. On l'a étudié, comparé avec d'autres types de souvenirs, et donc non, ce n'est pas un faux souvenir, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Je pense que après, le défi, c'est de le voir comme ça émerge de l'activité cérébrale résiduelle, ou c'est justement autre chose, une forme de conscience cosmique, mais là aussi, il faut encore la définir.
Dernière question, vous êtes un chercheur reconnu des états de conscience, après avoir longtemps travaillé sur ces expériences de mort imminente, quel rapport entretenez-vous avec la mort ?
Alors, oui, je pense que, comme neurologue, travaille aux soins intensifs, en rééducation, on est confronté à ça trop souvent, et donc ça m'oblige à remercier la vie, à être très développer la gratitude. Donc on apprécie encore plus ce qu'on a, et c'est une invitation à tout le monde.
Un mot de conclusion ?
Oui, en fait, j'ai un rapport un petit peu particulier avec la mort, parce que depuis 6 ans, normalement, je devrais être dans un cercueil au cimetière. Donc, je reconnais que, comme toi, Steven, je remercie infiniment la vie et tout ce qu'elle peut apporter.
Merci. Et un dernier mot, Fred, qui nous écrit « Merci au docteur Laurès de valider scientifiquement ce que nous soignants observons quotidiennement. Je suis infirmier anesthésiste et j'ai eu l'occasion d'accueillir de nombreux témoignages d'expériences de mort imminente. » Merci, docteur Gérard Dupeyrat. « Revenu de la mort », c'est publié aux éditions Lazare et Coquelicot. Merci, professeur Steven Laurès. « L'expérience de mort imminente », c'est publié chez Odile Jacob. Demain, on s'intéresse à la perte avec la philosophe Marianne Chaillan, père de la jeunesse, de la vigueur, de notre corps, de la santé, de nos espérances, de nos proches. Tous vos témoignages demain à partir de 10h au 01 45 24 7000.